dont l'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation, sans la propriété de l'auteur.
Thank you.
serait-ce simplement du désir que je crois être de l'amour ? N'ose pas en parler à son ami de peur de le froisser, et il en a honte. Les jours passent, ils continuent toujours à se voir. Elle devient de plus en plus entreprenante. Il semble qu'elle désire aller plus de l'avant. Lui est comme pris de vertige, mais il n'aimerait pas. Il se dit qu'elle est très entreprenante, qu'elle doit être très experte. Et très souvent la nuit, il ne se pose plus de questions et ne pense qu'à son désir. Elle lui propose de sortir avec lui un samedi soir. Il accepte, intimidé, et se demande ce qui va se passer. Ils sortent tous les deux, vont au cinéma. Au cinéma, elle se fait bégoter, se plaque contre lui. Lui, son désir augmente de plus en plus. À la sortie du cinéma, elle lui dit qu'elle connaît dans le quartier une copine qui a une chambre et qu'elle accepte de la lui prêter. Elle lui demande « Ça te dit ?» Il ne dit rien, couche de honte, mais il la suit. Elle a fait rentrer dans un immeuble de 3 étages, sans style et très quelconque. L'allée n'est pas très propre et sent mauvais. Elle le mène au 3e étage. Prend dans son sac les clés, elle lui dit. Ma copine est absente et m'a donné ses clés. Elle ouvre la porte, éclaire et le fait rentrer. Il est intimidé, voit que c'est un petit appartement meublé avec des meubles disparates, que ce n'est pas très propre et ça fait pauvre. Elle le mène à la chambre. Éclaire, le fait entrer. Il est tellement excité qu'il ne sait plus. Son désir a disparu. Il y a un lit à une place. Elle commence à se déshabiller. Elle se déshabille sans pudeur. Elle lui dit « Dépêche-toi !» Lui, pour ne pas paraître ridicule, commence à quitter sa veste et sa chemise. Elle est déjà complètement nue, s'allonge sur le lit. Et lui dit, viens, dépêche-toi. Lui, intimidé, a des difficultés à se déshabiller. Elle lui dit, tu es puceau à ton âge, c'est pas normal. Tout d'un coup, il n'a plus du tout envie d'elle. Sa pudeur, son désir se transforme en colère et lui crie. Pourquoi est-ce que tu me forces à faire ce que je ne veux pas ? La fille ne comprend pas et se sent humiliée. et lui la quitte en courant. Malheureusement, une fois sorti de la chambre, sa colère est passée et la honte de ce qu'il a fait. Il se dit qu'elle va le prendre pour un imbécile. Pourquoi tu as fait ça alors que depuis des semaines et des semaines, tu ne pensais qu'à ça? Puis tout d'un coup, il se dit qu'il aurait eu honte de faire ça, qu'il aurait détruit toutes ses promesses. Heureusement, la fille, humiliée, oui, humiliée, en parle à tout le monde. Elle dit, c'est un PD, j'en ai la preuve. Tout le monde rit. Cyril, l'humilié, parle de son inventeur à Serge. Serge lui dit, tu as bien fait. De toute façon, ce n'était pas une fille sérieuse. Et puis, tu as cru que c'était de l'amour que tu avais pour elle. En réalité, ce n'était que du désir. Cyril lui dit, peut-être bien, mais je désirais son corps malgré moi. Et j'ai honte de ce que j'ai fait. Et puis tout le monde va se moquer de moi maintenant. Serge lui dit, ça n'a aucune importance. Ils comprendront plus tard ce que tu as ressenti. Et puis eux aussi ont connu ton histoire. Ils sont passés par là. Certainement par des épreuves comme la tienne. Mais ils ont passé outre. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient raison, bien entendu. Je ne veux pas dire non plus que certains garçons et certaines filles ne s'aiment pas d'une façon vraie. Cyril se sent soulagé et ne pense plus à cette histoire. Il se moque de ce que pensent les autres. Un jour, Serge ne se sent pas bien. Il a très mal à la tête et a de la fièvre et est obligé de rentrer chez lui. Durant plusieurs jours, Cyril ne le voit pas au lycée. Il est inquiet, a peur qu'il ait la peste. Il est tellement inquiet qu'il décide d'aller aux nouvelles chez sa mère. Sa mère le reçoit au salon et lui dit « Je te remercie de venir aux nouvelles de Serge. Il ne va pas très bien. Les médecins sont inquiets. » Serge lui demande « Qu'a-t-il ? » Elle lui dit « On ne sait pas. Peut-être une simple grippe ou quelque chose de plus fort. » Pour le moment, les médecins sont incapables de diagnostiquer son mal à cause de la fièvre qui ne tombe pas. Mais ils sont inquiets. Il lui demande, est-ce que je peux le voir? Elle lui dit, oui, bien sûr. Elle l'accompagne jusqu'à la chambre de son fils.
et entre avec Cyril. La pièce est dans la pénombre. Serge est au lit. Sa mère lui dit,
Cyril est venu pour avoir tes nouvelles et veut te dire un petit bonjour.
Serge lui dit,
je te remercie. Venez, approchez.
Il s'approche du malade. Et Cyril voit qu'il a beaucoup maigri, qu'il est en sueur et a des difficultés à respirer. Cela lui fait beaucoup de mal de voir son ami dans cet état. Il lui demande,
« Comment vas-tu ?»
Serge lui dit,
« Pas très bien. »
Sa mère lui dit,
« Ça va aller mieux maintenant. Les médecins disent que ça va s'améliorer. »
Serge soupire. Sa mère lui dit,
« Je m'en vais te chercher un peu de tisane. »
Elle sort de la pièce. Serge dit à Cyril,
je me sens très faible et quelque chose me dit que je vais mourir.
Cyril est très ému et a envie de pleurer. Il lui dit les larmes aux yeux.
Ce n'est pas parce qu'on se sent faible que l'on va mourir. Tu ne vas pas mourir. Et puis, tu n'as qu'une simple grippe.
Serge lui dit,
je sens moi, près de moi, quelque chose qui m'attire, qui m'appelle. Je sais que c'est sûrement la mort.
Cyril est très ému.
Non, ce n'est qu'une impression, parce que tu n'as pas le moral, parce que tu restes au lit toute la journée avec de la fièvre. Mais ce ne peut être la mort qui t'attire, qui t'appelle. D'abord, elle n'existe pas. Tu es chrétien. Tu dois savoir que la mort, elle n'existe pas. Ce n'est pas une personne qui t'appelle. Et puis pourquoi Dieu voudrait-il que tu meures? Tu n'as rien fait de mal et tu veux être prêtre? Si tu veux être prêtre, Dieu a besoin de toi.
Serge lui dit,
les désirs de Dieu sont impénétrables. Et puis mort, bien des enfants qui eux ont à peine commencé à vivre. Alors pourquoi pas moi?
Cyril est de plus en plus ému, lui dit,
mais la plus besoin de toi vivant qu'au mort, puisque tu veux devenir prêtre, un prêtre au paradis, ça ne sert à rien, tandis que sur terre, tu es utile pour lui.
Serge lui dit,
peut-être est-ce que Dieu me sent pas assez fort pour que je le devienne. Et puis pourquoi est-ce que moi me le laisserait-il vivant alors qu'il fait mourir des millions de personnes avec cette maladie que l'on appelle la peste? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres?
Cyril lui dit,
tous ceux qui t'aiment, tu as moi, tu as ta mère, et si tu meurs, tu vas nous rendre très malheureux.
La mère entre avec un bol de tisane. Il s'arrête de parler. La mère fait boire la tisane qui boit difficilement.
Ah. et a des ganglions à la gorge. Une fois qu'il est bu, Serge lui dit:
moi, je suis fatigué.
Cyril, effrayé, les larmes aux yeux, lui dit:
tu ne veux pas me dire partir comme ça après ce que tu m'as dit?
Serge lui dit:
qu'est-ce que j'ai dit?
Rien.
Reviens me voir si tu veux. Demain, j'irai mieux.
Cyril en pleure, suit la mer. Une fois dans le salon, il lui dit:
il est très mal.
Je le sais, malheureusement. Il faut faire comme si tout allait bien. Et puis, il faut se résigner. Mais quelque chose me dit qu'il a simplement une simple grippe.
Cyril lui dit: oui, vous avez raison.
Il a dit ça pour lui faire plaisir, pour pas lui faire de la peine, mais c'est que Serge est certainement perdu. Oui, certainement perdu. S'en retourne démoralisé et apporte pour son ami. Jusqu'au lendemain, il ne pense qu'à lui. Il prie pour qu'il puisse guérir. Lendemain après-midi, anxieux, très ému, il va sonner à la maison de son ami. Il ouvre la bonne en pleurs. En quelques secondes, il comprend, tremble de tout son corps et a envie de hurler. Et lui dit:
monsieur, si vous saviez, il a souffert toute la nuit et est mort au petit matin dans les bras de sa mère. On dirait un ange, monsieur.
Il ne sait que faire. Et lui demande:
vous désirez voir madame?
Et lui dit:
oui.
Elle le mène au salon. Là se trouve la mère, elle est assise dans un fauteuil et pleure. Lorsqu'elle le voit, elle se lève et s'approche de Cyril. Elle lui dit:
c'est fini.
Il se met à pleurer, et elle aussi. Puis au bout d'un moment, elle lui demande:
est-ce que vous voulez le voir? Il lui dit tristement « Oui ». Et ils vont le voir.
Il est couché, tout habillé d'un costume beige. Il a le regard calme et sa peau semble lumineuse. Il est bien peigné et semble dormir. Cyril, très ému, c'est la première fois qu'il voit un mort et en plus c'est son ami Serge. Son ami Serge qui a presque son âge et qui est mort. Il n'arrive pas à comprendre qu'il soit mort et qui ne lui parlera plus jamais. Non, ce n'est pas possible que Serge soit mort et qu'ils ne pourront plus avoir des discussions. Serge, son ami, si sage, si sérieux, celui qui avait toutes les qualités et qui est mort maintenant. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait mourir? Il ne le méritait pas, ça. Oh non, il ne méritait pas ça. Il avait toutes les qualités. La mère et Cyril pleurent ensemble. Puis au bout d'un moment, un grand vide s'empare de Cyril. Aucune pensée ne lui vient. Rien. Il reste un long moment comme ça. Puis la mère, ayant pitié de lui, lui dit qu'il faut maintenant laisser Serge.
Elle le mène au salon. Le fait asseoir et lui fait boire un petit remontant. Tenez, merci. Elle lui dit, il ne faut pas avoir de peine pour Serge. Parce que Serge, maintenant, est heureux. Il est près de Dieu. Cyril lui dit, oui. Mais il ne me parla plus. Et puis pourquoi l'a-t-il fait mourir, lui, qui avait toutes les qualités? Elle lui dit, Dieu est impénétrable. S'il a voulu près de lui, Serge, c'est qu'il avait ses raisons. On a beau se dire ça, ça ne suffit pas pour se consoler de la perte de son fils. C'est terrible, vous savez. J'ai tout perdu, mon mari et maintenant mon fils. C'est très dur pour une femme de perdre les deux êtres que l'on aime le plus au monde. Surtout son fils, le fruit de ses entrailles. Que vais-je devenir maintenant? Cyril est très gêné, il ne sait quoi dire. Elle soupire, le voit gêné et a pitié de lui. Elle lui dit, pardonnez-moi,
de vous avoir parlé comme ça. Il lui dit, je vous comprends. Vous savez, moi aussi, je suis seul. Je n'avais que votre fils. Votre fils pour moi, c'était un peu comme un frère. Je lui demandais toujours de me conseiller pour les choses de la vie. Et puis, il était tellement bon. Oui, tellement bon. Pour moi. Pour moi aussi, c'est une perte. Il était bon, intelligent aussi. C'est une très grande perte pour moi. Et puis, vous savez, je ne suis pas si jeune que ça. J'ai l'impression d'avoir vécu tellement de choses. Même si je ne m'en rappelle pas. Je me sens vidé. Vidé comme vous. L'enterrement a lieu, tout le lycée y est allé. Cyril est resté près de la mère, c'est elle qui la lui a demandé. C'est très dur pour elle. Une fois que ça a été fini, Cyril est retourné au lycée, l'air triste, démoralisé et affreusement seul. Une semaine plus tard, la mère le demande chez elle. Elle lui dit « Je vais quitter Lyon parce que ça me rappelle trop de souvenirs. Je suis venu vous prévenir pour vous dire adieu. Je vais retourner d'où je viens, c'est-à-dire à Paris. Là-bas, dans une grande ville où rien ne me rappelle mon fils, je me sentirai certainement un peu mieux. Mais ne croyez pas que je veux oublier Serge. Surtout pas. Je veux retrouver un peu de sérénité. Pensez à lui, pas comme une personne qui est morte, mais comme une personne qui est près de moi et continue à vivre. » Cyril lui dit, « Je vous comprends, madame. Moi aussi, je veux penser à Serge comme une personne qui est à l'intérieur de moi-même et qui me conseille. Je suis sûr qu'il nous voit et nous guide. » Elle lui dit, c'est justement ce que je veux ressentir, et pour cela il faut que je parte. » Elle se penche et l'embrasse sur la joue, en lui disant, « Je penserai beaucoup à toi. Il faudra que tu fasses attention, te protéger des hommes et des embûches, de la vie, ainsi que du diable. Je pars dans une semaine. » Il lui demande, « Je pourrais venir à votre départ pour vous dire au revoir ?» Elle lui dit, « Non, j'aime mieux pas. Ça nous ferait encore plus de mal. J'aime mieux te dire au revoir maintenant. » Il ne sait que dire. Elle lui dit, « Maintenant, il faut t'en aller. » Alors, il la quitte tristement, mais comprend pourquoi elle part. Les jours passent, Cyril se sent affreusement seul, prie tous les jours pour Serge et sa mère. Il écrit aussi une lettre au bon père Paul pour lui dire ce qui est arrivé à ses amis. Le père Paul lui dit qu'il priera pour eux et qu'il comprend la peine qu'il a et que cela montre qu'il a un bon corps. Les jours passent. Malgré la chaleur, Cyril continue à bien s'appliquer pour étudier. Il le fait pour lui et pour son ami qui n'a plus, pour la mère de son ami et pour le bon père Paul. Il ne veut pas les décevoir. Pendant ce temps, Jeanne se morfond seule chez elle. Dans cette grande maison, personne ne vient la voir. Elle pense constamment à Adrien en se disant que peut-être il est mort et que c'est Albert qui est la cause de sa mort. Les affaires marchent bien parce que les femmes veulent faire illusion d'être en bonne santé et pour cela, elles se servent de produits de beauté. Et puis elles ont l'impression que ça les protège de la maladie, de la chaleur, des rayons du soleil et que ça empêche le vieillissement de la peau. Bien entendu, les personnes qui achètent ces produits de beauté, ce sont ceux et celles qui en ont les moyens et qui peuvent faire ce sacrifice pour cet achat. Mais ceux qui n'ont rien, même pas de quoi manger, bien entendu, ils ne peuvent pas et ne pensent même pas à acheter ce genre de choses. Dans une grande chambre très luxueuse, aux meubles blancs et tulle blanc, le lit est découvert d'une fourrure est recouvert d'une fourrure blanche. Est assis à sa coiffeuse une femme grande, mince, les cheveux blonds défaits, longs, le visage triste, les yeux bleus, les lèvres pulpeuses. Elle doit avoir dans les 65 ans et est habillée d'un déshabillé transparent blanc. Sur sa chemise de nuit blanche, elle est en train de se maquiller.
Tout à coup, la porte s'est ouverte avec violence. Elle sursaute et voit avec effroi un homme. Il est grand, mince, les yeux marrons, souriant avec des lèvres pulpeuses, habillé d'un costume marine très élégant. Il lui dit « Je t'ai fait peur, Mimi ?» Elle lui dit d'une voix tremblante « Pourquoi viens-tu si tôt ?» Il s'approche d'elle et lui dit avec le sourire « Tu sais très bien pourquoi. Tu ne m'as pas obéi, Mimi. » Il lui donne une gifle tellement violente que ça l'a fait tomber de sa chaise. Il lui dit avec fureur, « Tu n'es pas sage et tu seras puni. » Il lui donne encore des gifles. Et lui donne des coups de pied dans le ventre. Elle ne réagit pas et pleure. Il lui dit encore furieux, « Tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas obéi, salope, tu ne me reverras plus, adieu !»
Il se dirige vers la sortie de la chambre et lui crie « Non, je t'en supplie, ne me laisse pas !» Il se retourne et rit « Tant pis pour toi !» Elle se relève avec difficulté et lui dit « Je te donnerai tout ce que tu m'as demandé !» Et lui dit « C'est trop tard !» Et il sort de la chambre. Il se dit, c'est fini, elle m'a tout donné, ce qu'elle pouvait me donner. Maintenant, il faut passer à autre chose.
Sorti de l'immeuble, il va prendre sa voiture pour rentrer chez lui. Il habite à Paris, dans une rue populaire, la rue des Champs. Un immeuble quelconque. Un immeuble quelconque, sans style de 4 étages. Elle est lugubre, sans ascenseur. Il est au 4e étage. Et un minuscule studio.
Il entre dans son studio. Le studio est minuscule, meublé avec des meubles disparates. Un lit à en fer, une table de nuit formica, 2 chaises de cuisine aussi en formica, une armoire 1930 à une porte, un coin cuisine avec un évier en pierre, une porte qui donne à la salle d'eau WC. C'est triste, sombre. Le lit fait sur la table, il y a des restes d'un petit déjeuner. Sur l'évier, il y a des tas de vaisselle sale. La porte de son armoire est ouverte. Elle déborde de vêtements. Il y en a aussi sur les chaises en vrac et contre le mur en vrac à terre quelques livres. Il est furieux parce qu'il va falloir passer à autre chose. Il faut qu'il trouve une autre personne pour remplacer la vieille. Oui, pour remplacer la vieille. Il s'appelle David Zibouman et a 35 ans. Il n'a jamais travaillé de sa vie et vit de la fortune des autres. Il passe son temps à séduire les vieilles femmes très riches qui s'ennuient et qui sont solitaires. David est issu d'une famille juive très riche. Il est le fils unique et ses parents l'ont élevé à la dure. Lorsqu'il était enfant et jeune adolescent, il était très timide et craintif, avait peur de ses parents et de ses professeurs. Ses études ont été catastrophiques. Son père et sa mère sont morts ruinés et lui s'est retrouvé à la rue sans un sou. Pour la première fois de sa vie, à 20 ans, il était libre, pauvre, mais il pouvait vivre et faire ce qu'il voulait. Que Comme il était issu d'une famille très connue malgré sa pauvreté, il a pu continuer à fréquenter les gens très connus. Très vite, il s'est rendu compte que sa bonne mine et sa gentillesse plaisaient beaucoup aux vieilles femmes très fortunées et elles lui faisaient des petits cadeaux. Elle lui demandait aussi c'est de les accompagner à des sorties. Il s'est rendu compte aussi c'est que ces dames vivaient d'une façon très solitaire et s'ennuyaient et que certaines, sans lui, n'avaient personne pour s'occuper d'elles. Au début, il a joué le petit ami très gentil. Mais petit à petit, il a pris l'assurance et a demandé une ou deux choses qui lui ont été données sans faire d'histoire. Et lui a pris de plus en plus d'assurance encore, parce qu'il s'est rendu compte que ces dames tenaient vraiment à lui. Alors, il leur a demandé en plus, de plus en plus d'argent, faisant de plus en plus de caprices, devenant un petit garçon, comme un enfant irritable et violent. Mais, il est devenu de plus en plus violent, et s'est aperçu avec joie, c'est que ces dames voulaient continuer à le voir et le suppliaient qu'il ne les laissa pas malgré ses violences. Puis petit à petit, il demandait de plus en plus de choses chères. Et le temps est passé comme ça. Et comme on le faisait vivre largement de cette façon, il n'a pas cherché à avoir une situation. Cette façon de vivre lui paraît tout à fait normale, puisqu'il était entouré de personnes qu'il trouvait que c'était normal la façon dont il vivait. Plus personne n'essaie de lui demander ce qu'il faisait et d'où provenait son argent. Au fil des années, il s'est mis à avoir un carnet d'adresses très intéressante. Il s'est mis à séduire de plus en plus de femmes riches pour se faire introduire dans des milieux de plus en plus fermés. Il leur a parlé des personnes qu'il a connues, des personnes de son carnet d'adresses, qui étaient des artistes célèbres, des hommes et des femmes d'affaires, etc. Ce qui fait qu'avec un carnet d'adresses et les connaissances, on l'a pris pour une personne importante et qui a été reçue de partout. Tous ces cadeaux qu'il a reçus, l'argent, etc., son instinct de juif l'a poussé à le placer et d'acheter des immeubles. À part pour ses vêtements, il ne dépense rien pour lui et continue à vivre comme lorsqu'il n'avait rien et à garder son studio. Garder cette adresse et ce studio minable pourrait peut-être lui nuire vu les personnes qu'il fréquente. Et les personnes trouvent ça original, bohème et même gentil de vivre de cette façon. Cela prouve qu'il ne jette pas l'argent par les fenêtres. Cela fait bien de ne pas trop dépenser, de ne pas tout dépenser. Cela prouve que l'on est économe. Et puis lui ne veut pas montrer qu'il a de l'argent. Comme ça, ça lui permet d'en demander à ses vieilles conquêtes. Voilà ce qu'est ce David Zibouman. Il est furieux. Oui, furieux. Se déshabille et se couche. Lorsqu'il a un ennui, comme il est malgré tout d'une nature dépressive, il se couche. À 13h, il se lève, parce qu'il a rendez-vous avec un ami pour aller déjeuner au restaurant. Après s'être lavé, rasé de frais, d'un nouveau costume marine, il sort, va rejoindre son ami dans un restaurant chic, rue Bellechasse.
Il entre dans le restaurant, qui est un restaurant qui fait très spécialité bourguignonne. Le restaurant est meublé et décoré d'une façon campagnarde. Les tables ont des nappes à carreaux blancs et rouges. Il y a du monde dans le restaurant. Une dame vient à lui. Elle est grande, mince, blonde, habillée d'une robe noire. Elle lui demande « Vous désirez, monsieur ?» Il lui dit « J'ai rendez-vous avec monsieur Tarnoff. » Elle lui dit « Monsieur vient d'arriver, veuillez me suivre. » Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.